Bonjour, frères et sœurs. Vous avez vu sur vos bulletins le titre, c'est de ne pas se fier aux apparences. Nous étudions l'évangile de Luc. Nous sommes arrivés au moment où Jésus est au temple et il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, mais on comprend que c'est dans les derniers jours, avant finalement qu'il soit arrêté, accusé faussement et mis à mort. Et il enseigne le peuple avec zèle, même si c'est ce qui l'attend. C'est impressionnant de voir son dévouement pour la mission que Dieu lui a confiée, que son Père lui a confiée. Mais son zèle, alors qu'il prêche avec zèle, ça lui attire, c'est sûr, la faveur du peuple qui l'écoute et qui sont émerveillés d'entendre les paroles de grâce qu'il prononce. Mais ça attire aussi la haine des chefs religieux qui le voient vraiment comme une menace à leur autorité. Et ils veulent même le mettre à mort. Il faut dire qu'il se trouve, alors qu'il est au temple, il se trouve vraiment au cœur du système religieux qui a été mis en place à l'époque, qui, oui, est fondé originellement sur la loi de l'Ancien Testament, le culte que Dieu a déterminé. Dieu a indiqué dans l'Ancien Testament comment il voulait être adoré. Mais ce qui se passait à l'époque de Jésus, c'était une distorsion de la volonté de Dieu. Il y avait, oui, une pratique qui était fidèle au Seigneur, mais il y avait beaucoup d'ajouts qui avaient été faits, des transformations. Et on se rend compte que finalement, toute la direction, les chefs religieux, pour la plupart, étaient corrompus. Et c'est ce que Jésus dénonce. Dans le dernier passage qu'on a étudié avec Ronald la semaine passée, j'étais pas là, mais je l'ai écouté sur Internet. Donc, on voit Jésus qui est abordé par des chefs religieux. Donc, on entend parler des pharisiens, des sadducéens, des scribes, qui viennent, en fait, supposément avec des bonnes intentions, là, pour lui poser des questions en tant que maître. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est à le piéger, trouver une faille et pouvoir l'accuser. Mais finalement, c'est par les réponses de Jésus, c'est eux qui sont démasqués. Et premièrement, ils lui ont demandé s'il fallait payer l'impôt à César. Et là, ils pensaient vraiment pouvoir l'acculer au pied du mur. Mais Jésus leur répond de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est eux qui ne savent plus quoi répondre à ça. C'est eux les chefs religieux. Et est-ce qu'ils pouvaient dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par là, rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Et eux, ils sont censés le savoir, là. Ils sont censés le savoir, ils sont censés le faire et être des exemples pour cela. Donc, eux, ils sont un peu au dépourvu, finalement. Et donc, ce qui est démasqué, c'est leur incompréhension de la volonté de Dieu. On ne doit pas se poser de question, est-ce qu'on doit obéir à César? C'est l'autorité que Dieu a voulu qu'il soit sur eux à ce moment-là de l'histoire. Et finalement, lorsqu'on obéit à une autorité que Dieu a placée sur nous, on obéit à Dieu, qui est le roi de tous les rois, le chef de tous les chefs. Donc, ça démontrait leur incompréhension de la souveraineté de Dieu. Plus tard, il demande à Jésus, qu'est-ce qui va arriver au jour de la résurrection, si une femme qui était veuve a épousé son frère, le frère de son mari défunt, et ainsi de suite? De qui elle va être la femme si elle a eu plusieurs maris? En réalité, la vraie question qui était débattue entre eux, c'était de savoir, est-ce qu'il va vraiment y avoir une résurrection ou pas? Mais ça montrait vraiment encore là leur incompréhension de qui est Dieu, même de l'identité même de Dieu. Dieu, il se présente comme le roi de son peuple, et il n'est pas le roi d'un peuple décédé. Là, pour l'éternité, Dieu serait le roi d'un peuple mort. Ça ne fait pas de sens. Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Donc, encore là, Jésus leur met au visage qu'ils avaient une mauvaise compréhension de qui est Dieu, même dans la nature même de Dieu, le Dieu des vivants. Et la confiance en ses promesses, si Dieu dit qu'il va ressusciter, c'est sûr qu'il va ressusciter son peuple. Et finalement, après, c'est Jésus qui leur pose la question. Comment, vous qui connaissez qui est le Christ qui doit venir, comment c'est possible que le Christ soit à la fois le fils de David et le Seigneur de David? Encore là, ils ne savent pas quoi répondre. Parce que ça ne se peut pas que le fils de quelqu'un, ou même son petit-fils ou arrière-petit-fils, soit le Seigneur, parce que Dieu a fait en sorte et que c'est toujours le Père qui a autorité sur ses descendants. Mais comment David peut appeler l'un de ses descendants son Seigneur? Et ils ne savent pas quoi répondre à cela. Encore une fois, c'est leur incompréhension théologique qui est dénoncée. Ils n'ont pas compris ou ils ne veulent pas croire que le Christ qui doit venir, oui, il est un homme descendant de David, mais c'est Dieu lui-même qui vient sur terre. Donc, c'est à la fois le descendant de David et le Dieu créateur qui vient sur terre, le Seigneur de David. Donc, dans ces trois interventions-là, et on peut croire qu'il y a eu plus que cela, plus de dialogue encore même entre les chefs religieux et Jésus, mais Luc en rapporte trois ici, là, qu'on a vu la semaine passée. Et c'est l'incompréhension au niveau théologique des chefs religieux qui est dénoncée, ou leur refus de croire. Et ce qui va suivre aujourd'hui, deux paroles de Jésus, où on voit une suite logique, c'est-à-dire que ceux qui ont une mauvaise théologie, ça va les conduire à avoir un mauvais comportement. Ne pas avoir une bonne compréhension de qui est Dieu, conduit à avoir un comportement qui est contraire à sa volonté. C'est inévitable. Et on tombe dans ce que Dieu considère être moralement mauvais, immoral. Et même ses chefs religieux n'étaient pas à l'abri de l'immoralité. Malgré les apparences qui étaient en leur faveur, ils étaient bien vus par le peuple. Donc, ils ont ensemble Luc, chapitre 20. On arrive à la fin du chapitre 20. 20:45 à 21:4. Luc 20, verset 45. « Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes. » Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Et ils dévorent les maisons des veuves. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est un court passage, mais c'est profond hein, comme réflexion. Ces deux paroles-là mettent en évidence finalement le danger de se fier aux apparences, que les apparences peuvent être trompeuses dans les deux cas. Et c'est intéressant de voir dans les deux cas aussi qu'il est question des veuves. Donc la première parole de Jésus, il fait une déclaration qu'on peut dire solennelle, c'est important. Et il le fait alors que tout le peuple écoute, ce qui n'est pas pour calmer la colère des chefs religieux, c'est sûr. Et il parle d'eux là, devant le peuple. Mais il leur dit, prenez garde. Et ce qui est en train, finalement, Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer l'Église qu'il va établir peu de temps après sa résurrection. Donc, finalement, il est en train de mettre en place des principes à adopter pour son Église qu'il va bâtir. Et c'est une question qui est au cœur, finalement, de l'attitude à avoir ou à ne pas avoir, qui est au cœur même des relations entre nous dans l'Église. Il dit, « Gardez-vous des scribes. Bon, » on n'a pas de scribes parmi nous aujourd'hui, mais la mise en garde demeure. Donc, « Gardez-vous », ça veut dire « Faites attention à vous », dans le sens de « Faites attention de ne pas tomber dans le piège vous-même. » Prenez garde à vous-même lorsque vous regardez les scribes. Méfiez-vous. Soyez sur vos gardes. Ne tombez pas dans leur système de recherche des honneurs qu'ils entretiennent. Il y avait un système en place qui faisait en sorte que certains se méritaient des honneurs. Il y avait différents grades, différents rangs dans la société. Et les scribes étaient ceux qui alimentaient ce système-là, parce que ça leur était profitable. Donc Jésus dit, gardez-vous, ne les imitez pas, ne les encouragez pas non plus. Donc ce qu'ils entretiennent, finalement, c'est le culte des apparences. Ça peut sembler évident que les apparences, c'est pas une bonne chose, mais quand on est dedans, là, on s'en rend pas compte. Et nous-mêmes, on peut alimenter ce système-là. Il dit qu'ils aiment se promener en robe longue pour marquer leur dignité. Finalement, c'est ce qui les distingue du reste de la population. Il faudrait qu'on me paye cher, moi, pour que je me promène en robe longue. Peut-être qu'on devrait payer encore plus cher. Hein? Mais bon, allez. Pour les scribes, c'était une marque, finalement, de dignité. Et ils aimaient se pavaner et montrer qu'ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient pas dans la classe économique. Et ils aiment à être vus comme les spécialistes des Écritures, ce qui, en un sens, était vrai. Ils consacraient beaucoup de temps à étudier les Écritures, mais ils voulaient vraiment être reconnus pour cela. Eux, ils étaient les spécialistes. Eux, ils pouvaient dire quelle était la volonté de Dieu. Donc, ils pouvaient venir exhorter n'importe qui et dire que ce qu'ils faisaient était mauvais ou qu'il était bon. Ils avaient l'autorité et ils tenaient à le rappeler. Ils aiment les salutations de Jésus dans les places publiques. Ce n'est pas simplement de se saluer les uns les autres, c'est une bonne chose. Mais c'est une salutation qui fait en sorte qu'on les met comme sur un piédestal. Comme, par exemple, de baiser la bague. Là. Je ne sais pas c'était quoi la forme de salutation à l'époque, là, mais une salutation propre pour montrer, « Oh, c'est comme des notables qui sont arrivés. » Ils aiment les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Donc, ils aiment être reconnus, finalement, à ce qu'ils croient être leur juste valeur, qui est une valeur supérieure au reste de la population. Et ils pensent maintenir un bon ordre. Mais Jésus voit cela comme simplement de l'orgueil. Ils font de longues prières pour l'apparence. Ils font semblant, finalement, d'être plus pieux que les autres. Et peut-être même qu'ils ont développé un art pour bien parler, un art oratoire, et que les gens qui les écoutent prier se disent « Wow, ils sont vraiment des hommes de Dieu, des hommes pieux. » Et les gens pouvaient venir qu'à être vraiment convaincus qu'ils étaient dignes d'honneur et qu'il fallait les honorer. Que Dieu appréciait vraiment leurs œuvres et que Dieu voulait qu'ils reçoivent des privilèges. Si ce qu'on dit est vrai, les gens qui ont étudié la culture de l'époque, je ne sais pas si c'était vrai partout, mais ils disent que les scribes ne pouvaient pas être rémunérés pour leur enseignement. Mais pour qu'ils puissent survivre, les gens leur faisaient des dons. Mais les dons qu'ils recevaient les rendaient riches, finalement. Donc, c'était mieux qu'une paye. Et ils pouvaient aller mettre beaucoup de pression là, sur les gens pour recevoir. Et de toute façon, toutes les faveurs qu'ils recevaient, ils étaient richement payés, même si officiellement, ils faisaient un travail bénévole. Mais selon Jésus, finalement, ce qui montre vraiment leur hypocrisie, parce que ça peut ne pas être évident à voir s'ils sont vraiment des hommes de Dieu ou non, c'est comment ils traitent les veuves. Jésus en fait comme le symbole pour montrer que dans leur cœur, c'est mauvais ce qui se passe. Leur attitude est mauvaise. Et il prend la manière dont il traite les veuves. À l'époque, les veuves n'avaient pratiquement pas de moyens de gagner leur vie. Si leur mari était mort et qu'elles avaient une maison, bien, elles pouvaient vivre finalement des biens qu'elles avaient. Et si elles avaient un champ qu'elles pouvaient rapporter, elles pouvaient en vivre pendant un certain temps. Bon, on ne connaît pas tout de comment ça se passait à l'époque, mais une veuve ne pouvait pas aller comme sur le marché du travail là, pour gagner sa vie. Donc finalement, elle dépensait les biens qu'elle avait reçus, si elle pouvait continuer à en jouir, parce qu'elle pouvait se faire saisir ses biens. Donc elle, finalement, à un moment donné, elle n'avait plus rien pour vivre. Certains scribes, j'ai lu qu'ils devenaient des gestionnaires des biens des veuves pour leurs biens. Pour leur bien. Mais donc, c'était pour les aider à administrer leur bien, mais finalement, c'est eux qui s'en mettaient plein les poches. Et dans un sens, comme Jésus dit, ils dévorent les maisons des veuves. C'était un système honteux. Et certains, j'ai lu aussi, disaient qu'ils profitaient justement du fait que les gens leur faisaient des dons, qu'ils pouvaient se rendre chez les veuves pour être bien reçus comme des rois, manger, mais finalement, ils recevaient beaucoup de choses de ces veuves-là, et ils en profitaient, ils abusaient de leur amabilité. Ils les escroquaient. Donc, ils donnent l'apparence d'être des serviteurs de Dieu, mais finalement, ils renient ce qui est cher pour Dieu, ce que Dieu a à cœur. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas aimer ce que Dieu aime. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a dévoilé son cœur. Qu'est-ce qu'il aime? Il a en horreur les injustices. Mais il dit dans Deutéronome 10, « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu est grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne, qui ne reçoit pas de présent. » Il n'y a pas de favoritisme. Tu ne peux pas acheter la faveur de Dieu. Il est juste et il ne considère pas qu'une personne est plus digne d'honneur qu'une autre. Il fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. C'est le cœur de Dieu, ça. Et c'est pour ça qu'il continue au chapitre 24. « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigrant et de l'orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, que l'Éternel, ton Dieu, t'en a libéré. C'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. Quand tu feras la moisson de ton champ, il sera oublié une gerbe dans le champ. Tu ne retourneras pas pour la prendre. Ce sera pour l'immigrant, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste. Ce sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas ensuite ce qui reste. Ce sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. Wow, c'est le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu, l'Éternel des armées, le conquérant, qui donne un ordre strict, prenez soin des personnes vulnérables chez vous. De ceux qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont pas de propriété, les veuves, les orphelins, qui n'ont pas de parents pour les en prendre soin. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'à dire dans Exode 22, « Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera. Je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Des paroles sévères. Je pense que c'est dans cette même ligne de pensée là, que Jésus déclare, après avoir dénoncé la mauvaise attitude et un mauvais comportement immoral des scribes, il dit « Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Ou on pourrait dire un jugement sévère. Finalement, ils seront condamnés. Le verdict contre eux, là, ne sera pas seulement coupable, ça sera très coupable. Ils vont juger de manière très sévère. Eux qui sont les experts des Écritures, ils devraient conduire le peuple à observer la parole de Dieu, en étant eux-mêmes des modèles à suivre. C'est une honte. Ils font le contraire, finalement. Et c'est dur de déterminer comment Dieu applique cette condamnation-là. Sûrement, parfois, Dieu le fait pendant notre vie, pendant notre vivant. Il y a peut-être des scribes qui ont été mis à mort de leur vivant. Mais une chose est sûre, à la fin des temps, au jour du jugement, lorsque Dieu condamnera une partie de l'humanité en enfer, il y aura même des degrés de condamnation en enfer. C'est un peu mystérieux, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, mais si on regarde tout l'enseignement de Jésus, ça porte à croire que certains vont souffrir plus même que d'autres. Une condamnation plus sévère. Et ce que Dieu considère comme grave, c'est quelqu'un qui se dit être son serviteur et qui le déshonore, qui désobéit, qui est rebelle. C'est même pire finalement qu'un athée. Et en plus, celui qui est un leader d'un groupe et qui conduit ce groupe à enfreindre la loi est encore plus coupable puisqu'il conduit d'autres à tomber. C'est comme le comble. Mais ne pensons pas que ce système-là de recherche des honneurs était seulement pour l'époque de Jésus. On l'a vu finalement, ça fait 2000 ans que l'Église existe, et on l'a vu de toutes les manières. L'homme est très imaginatif pour créer des systèmes, pour se mettre en honneur. Et Jésus était en train finalement de préparer l'inauguration de l'Église, et il mettait en garde les futurs chrétiens. Faites attention, ne tombez pas dans le panneau. Dieu ne veut pas qu'il y ait des rangs sociaux, des classes d'honneur dans l'Église. On a un avertissement dans Jacques 2. Ils disent, « S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, et si plein d'attention pour celui qui porte des habits resplendissants, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? C'est clairement mauvais. Il y a un danger aussi, et Jacques le dit au chapitre suivant, au chapitre 3, il y a un danger aussi à vouloir s'élever par la prédication, même par l'enseignement, par nos connaissances de la parole de Dieu. Il dit dans Jacques 3:1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Je me souviens d'un ami qui me racontait, c'était peu de temps après sa conversion, mais avant qu'il soit chrétien, c'est un guitariste, il jouait de la guitare électrique, et son rêve, c'était de devenir vraiment une vedette du rock, là. Et il s'imaginait parfois être dans un stade où il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'applaudissent. Puis là, il fait un solo de guitare, puis tout le monde l'applaudit. Il est comme il est une idole, finalement, là. C'était son rêve. Quand il est devenu chrétien, il pensait être libéré de cela. Il a commencé à étudier la Bible, puis là, il se concentrait de plus en plus à étudier la Bible, jusqu'à ce qu'il découvre finalement qu'il espérait un jour être un prédicateur vedette et remplir des grandes salles, écrire des livres et être connu, être populaire. Finalement, son même désir là, de gloire, il l'avait juste transposé dans le monde chrétien. Mais il s'en est repenti. Heureusement, Dieu lui a fait la grâce qu'il puisse s'apercevoir de cela avant qu'il soit trop tard. Mais on n'est pas à l'abri. Hein. Personne n'est mieux qu'un autre. On est tous sujets à la tentation de tomber dans l'orgueil. Et ce qui est un grand scandale pour le christianisme en général, c'est l'Église catholique. Vous serez d'accord avec moi que tout le système d'honneur qui est mis, on est allé jusqu'à dire que les prêtres, les évêques, tous sont dans une classe à part. On a inventé ce concept-là du clergé et des laïcs. Ce n'est pas biblique. Même le clergé se met comme médiateur entre Dieu et les hommes. On doit passer par eux. Ils doivent recevoir les honneurs. Les bâtiments d'église doivent être somptueux, glorieux, pleins d'or, alors que les pauvres fidèles, certains meurent de faim. C'est vraiment une horreur aux yeux des dieux, je crois. Mais tout ce système-là justifie la gloire, la révérence de ces personnes et leur richesse. Même on va jusqu'à exploiter les pauvres gens en disant qu'ils doivent payer l'église pour qu'on prie pour eux. Ou acheter des indulgences. Ou même pour leurs proches qui sont décédés. C'est vraiment honteux. Mais pensez-vous que dans le milieu évangélique, on est à l'abri de cela? Non. On est tous sur nos gardes et moi-même, je dois faire très attention. La tentation est toujours là. Mais il y a combien de pasteurs qui se pavanent, pas en robe longue? Ben, peut-être que oui, mais qui se pavanent avec leur titre, leur diplôme, qui se font appeler révérends, qui sont dans une classe à part. Là. Certains ne sont même pas dans l'assemblée pour chanter les cantiques avec le reste de l'assemblée. Ils arrivent après les chants, seulement pour le moment de la prédication, avec leur porteur de Bible. Puis ils vont partir avant même que les gens puissent aller les saluer. Puis dans leur prédication, soyez sûrs qu'ils vont parler de l'importance de donner beaucoup d'argent. Et ils ne vont pas se déplacer rarement dans les maisons des fidèles dans l'Église de pauvres conditions, parce qu'ils ne sont pas dignes de les recevoir. Ou s'ils se déplacent, il faut qu'ils soient reçus avec tous les apparats, là, comme des notables, comme des dignitaires. Et l'Évangile de prospérité, le mensonge qu'ils prêchent, finalement, au lieu d'enrichir leurs fidèles, les appauvrit pour qu'eux soient enrichis. Ils vont aller jusqu'à se vanter des miracles qu'ils font, les réponses à la prière, et combien qu'ils reçoivent des révélations de Dieu. Alors que le commun des chrétiens, il dit « Oh boy, moi je ne suis pas de ce niveau-là spirituel. » C'est sournois, puis ils passent pour des hommes de Dieu. Mais tous les chrétiens, finalement, sont à risque de tomber dans cette recherche-là des honneurs. Et on peut se surprendre tout à coup à vanter quelqu'un, à l'honorer, parce que finalement, un jour, ça peut nous être un bénéfice pour nous-mêmes. Là. Il y avait les Oscars la semaine passée à la télévision, là, puis c'était un peu choquant. Là. Moi, je regarde ça parce que je suis un fan des films. J'aime regarder les compositeurs de musique. En tout cas, on s'intéresse à l'art du cinéma, là. Mais la soirée des Oscars elle-même, là, c'est des gens qui se vantent les uns les autres, qui se glorifient. Quand on prend un peu de recul, on regarde ça, là, c'est honteux finalement. Mais les gens embarquent dans le système. Un acteur, est-ce qu'il fait... il travaille plus fort à la sueur de son front là, que quelqu'un qui travaille dans une usine pendant la semaine. Pourtant, lui, il est mis comme une personne très importante. Quand un acteur décède, là, on est en deuil. Alors qu'un pauvre citoyen, lui, s'il décède, c'est comme moins important. Mais ce système-là, parfois, malheureusement, on le retrouve dans l'Église. C'est pour ça que Jésus nous dit, « Prenez garde. » Il faut constamment travailler pour que ça ne pénètre pas. Ça vient de l'extérieur, ça vient de nous-mêmes. Un jour ou l'autre, on tombe dans ce système et on se rend compte là, qu'on est en train là, d'alimenter un système où on se félicite les uns les autres et on se glorifie. Il faut constamment se remettre en question pour rejeter tout cela, la recherche des honneurs. Même tout service dans l'Église que l'on fait, on devrait régulièrement sonder son cœur pour voir si on n'est pas en train de rechercher une certaine reconnaissance de la part de nos frères. Même prier en public, prier devant d'autres peut être une source de glorification. C'est bien quelque chose de spirituel, c'est bien de s'adresser à Dieu. Et malheureusement, à cause qu'on a un cœur sujet au mal, on peut détourner ça pour notre propre gloire. C'est vraiment honteux. La louange peut servir à cela aussi. Et le meilleur test pour savoir si on a le cœur à la bonne place, finalement, là, c'est de regarder comment on considère les personnes vulnérables dans l'Assemblée. Les veuves, ça reste toujours un test qui est bon. Comment on considère les frères et sœurs qui ont moins de ressources, moins de capacités? Est-ce qu'on aime être avec eux, aller prier avec eux, lire la parole ensemble, chanter avec eux, ou on s'en tient loin? Est-ce qu'on se voit dans une classe à part, ou on se voit vraiment comme un frère et une sœur de tout dessous de ces gens-là? Dans 1 Jean 4, on lit, « Si quelqu'un dit, « J'aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, ben c'est un menteur, on pourrait dire un hypocrite. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Il y a une deuxième erreur aussi qui peut facilement se glisser dans l'assemblée, c'est de juger de la valeur des gens par rapport à leurs ressources. Et c'est naturel, là, dans une entreprise, dans le monde séculier, on va juger de la valeur des employés, ils vont recevoir un plus gros salaire, plus qu'ils ont de ressources à apporter à l'entreprise. Mais dans l'Église, ce n'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Mais malheureusement, on a une tendance à voir cela comme ça, à nous évaluer les uns les autres par rapport à ce qu'on peut apporter, soit en argent, soit en temps, ou en capacité, en don. Et c'est pour ça que Jésus... Il leur rappelle que cette erreur-là de ne pas se fier aux apparences. Il dit que Jésus lève les yeux. Donc peut-être qu'après avoir enseigné, il s'est assis sur un banc. Mais il lève les yeux et il voit les riches qui viennent, qui donnent l'argent dans le tronc, dans le trésor pour le temple. Et ce n'est pas une mauvaise chose ici. On ne voit pas Jésus qui est en train de dénoncer les offrandes des riches. Mais ce qui frappe Jésus, c'est ensuite qu'il voit une veuve qui donne seulement 2 sous, 2 petites pièces. On croit que c'est de l'épita, c'est des petites pièces de cuivre, de bronze. Là. Ça ne représente pas grand-chose. Elle peut peut-être s'acheter un pain avec ça. Donc, en comparaison à l'offrande des riches, c'est vu comme insignifiant, son offrande. Mais Jésus, dans son omniscience, puisqu'il sait tout, il connaît la condition de ces personnes qui donnent. Il connaît leur cœur aussi. Et finalement, il révèle à ses disciples, cette veuve-là, là, qui a donné cette petite offrande insignifiante, finalement, elle a donné plus que tous les autres. Même, on pourrait traduire littéralement « plus que tous les autres ensemble ». Son offrande est plus grande que toutes les autres offrandes que vous avez vues passer avant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il donne... Tout le monde voit ce que chacun donne, là. Ça alimente en plus la compétition. Mais bon, je préfère les dons anonymes. Donc, Jésus, finalement, il fait encore une déclaration qui est solennelle, qu'il veut qu'on se souvienne. Parce qu'il dit, « En vérité, je vous le dis. » Écoutez-moi bien, là. Ce que je vous déclare, c'est vrai. Ce n'est pas juste mon opinion parmi d'autres, là. Je vous le dis, l'offrande de cette veuve-là est de plus grande valeur que l'offrande que les riches ont donnée. Donc, ce n'est pas une valeur monétaire. Si on pouvait la mesurer, c'était presque insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, c'était énorme. Parce qu'elle n'a pas donné de son superflu, de ce qu'elle n'avait pas besoin, comme les riches venaient de faire. Elle a donné de ce qui était essentiel pour elle, de son nécessaire. Et même Jésus ajoute qu'elle a tout donné. Donc les 2 pièces qu'elle a données, finalement, c'est tout ce qui lui restait. Tout ce qu'elle avait besoin pour vivre. Même, c'est intéressant, le mot qui est utilisé ici en grec, c'est de... Elle a donné comme de sa vie. C'est dur à traduire, là, mais... De son essence vitale, quand même. Ce qui lui permettait de survivre, finalement, elle l'a donné. Donc, Jésus ne dit pas que l'offrande des riches n'a pas de valeur, mais il rappelle que Dieu ne juge pas selon les apparences. Dieu regarde le cœur. Donc, c'est encore une mise en garde de ne pas se fier aux apparences de notre jugement. Dans mes lectures quotidiennes, je suis présentement dans Samuel, puis ça fait pas longtemps, la semaine passée, j'ai lu quand Samuel est envoyé pour aller oindre le fils d'Isaïe, comme prochain roi. Puis là, les fils d'Isaïe passent un après l'autre devant lui, puis Dieu dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Pour que finalement, ce soit David qui soit oint. Mais il dit dans 1 Samuel 16, « L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et on le voit, c'est vrai que l'Éternel regarde au cœur, on le voit dans toute la Bible. C'est pour ça que c'est bon de lire la Bible régulièrement. On apprend à connaître vraiment le cœur de Dieu. Humainement, on aurait dit, en voyant l'offrande de la veuve, mais OK, si elle n'a pas de quoi donner, mais qu'elle ne donne pas aux offrandes, on va comprendre. Ou logiquement, elle aurait pu donner seulement 1 des 2 sous, puis garder l'autre pour s'acheter un pain. Mais pourquoi elle donne tout cela? C'est pas insensé de sa part, c'est vraiment une démonstration de sa confiance en Dieu. Elle sait que son Dieu va prendre soin d'elle. Comment elle sait cela, je ne sais pas. Soit que c'est basé sur l'expérience, une vie de foi, soit qu'elle a entendu l'enseignement de Jésus, elle a été touchée, ou même peut-être la lecture des Écritures par les scribes. T'sais. Mais elle sait, elle a la foi que Dieu va prendre soin d'elle. C'est vraiment une marque de confiance en Dieu, et c'est vraiment une adoration pour son Dieu. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Et finalement, si Dieu décide qu'elle va mourir de faim, ça va être la fin de ses jours, c'est tout. Mais si Dieu veut qu'elle vive, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de vivre. Dieu va prendre soin d'elle, et c'est Dieu qui est le maître de notre vie. Et elle l'a compris. Donc Dieu regarde le cœur, et il aime, justement dans le contexte des offrandes, il aime celui qui donne avec joie. On a cette recommandation-là. Et ça ne veut pas dire la joie de recevoir des félicitations, ou la joie de se penser bon. C'est la joie de donner à Dieu. C'est une joie qui est produite par la reconnaissance à Dieu. Puis on est content, puis on dit à Dieu, « Merci de ce que tu m'as donné. Je reconnais que c'est toi qui m'as tout donné. Et voici, je te donne une part pour t'adorer, pour te remercier. » C'est une joie qui est saine, qui est pure. Et Dieu apprécie ce qui est un sacrifice de notre part. Bien, c'est sûr qu'il a sûrement fait une bonne utilisation de l'offrande que les riches ont donnée. Mais il a particulièrement apprécié les 2 sous que la veuve a donnés. Il apprécie ce qui nous coûte quelque chose. Lorsqu'on pourrait se payer un loisir, un objet, un voyage, puis qu'on décide de mettre ça de côté parce qu'on veut donner en offrande à Dieu, Dieu l'apprécie. On se prive de ce qu'on désire avoir pour donner à Dieu. Et même aux yeux du monde, parfois, donner à Dieu, ça veut dire qu'on se met dans une situation de risque. On gruge dans nos économies. Même, je suppose que certains donnent à l'Église, et à cause de cela, ça fait en sorte qu'ils ont peu d'économies, ou même peut-être pas du tout d'économies. Mais ils s'en remettent à Dieu. Aux yeux du monde, c'est insensé de faire cela. Mais aux yeux de Dieu, c'est vraiment une marque d'adoration et de soumission, de confiance en lui. Et c'est comme si on se donnait soi-même à Dieu. C'est cette expression-là qui est utilisée dans 2 Corinthiens 8. Vous savez que à l'époque où les premières églises ont été implantées, l'église de Jérusalem souffrait de la famine. Et ils ont organisé une collecte où plusieurs églises ont été sollicitées pour donner. Et Paul et avec d'autres ont été en charge d'amener l'argent à Jérusalem. Puis là, il parle des Corinthiens. Non, c'est-à-dire, il parle aux Corinthiens en leur parlant des églises de la Macédoine. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique eux-mêmes très éprouvés par des tribulations, mais leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités. Le fait qu'ils souffrent et qu'ils soient profondément dans la pauvreté a fait d'eux des chrétiens qui dépendent de Dieu. Et ça a produit chez eux une générosité. C'est vraiment surnaturel. C'est spirituel. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce, on pourrait dire le privilège, de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous l'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Donc, Paul décrit finalement l'offrande que les chrétiens de la Macédoine ont faite comme étant un don de soi. C'est comme s'ils remettent leur vie dans les mains de Dieu. Donc, je l'ai souligné, c'est intéressant de voir un détail dans les 2 paroles que Jésus a prononcées alors qu'il dénonce la mauvaise attitude des scribes et qu'il veut montrer aussi qu'il ne faut pas se fier aux apparences lorsque des gens donnent au Seigneur. Dans les 2 cas, il est question des veuves. Dans le premier cas, il dénonce le mauvais traitement qu'il faisait subir aux veuves, de manière hypocrite, sous le couvert de la piété, vraiment de dévorer les maisons des veuves. Et dans le deuxième cas, Jésus montre un avertissement, il dénonce finalement le mépris qu'on pourrait avoir envers les veuves, de penser qu'elles sont moins importantes, moins précieuses, de moins de valeur, parce qu'elles ont moins de ressources. Jésus dit, c'est le contraire. C'est une leçon pour nous, finalement, de ne pas juger la valeur d'une personne en fonction de ses ressources, en fonction de son argent, de ses connaissances, de son temps disponible. Certains ont plus de temps à donner que d'autres. Des capacités à servir, des capacités à diriger. Ça ne fait pas d'un frère de plus grande valeur qu'un autre. Ce qui devrait même attirer notre attention, c'est d'apprécier un frère qui aime Dieu et qui le démontre en mettant sa confiance vraiment en lui. Surtout de ne pas mépriser quelqu'un qui a peu de ressources. Donc, on l'a vu dans ces deux paroles-là, finalement, ce qui est mis en garde, c'est de faire attention de ne pas se fier aux apparences et de ne pas alimenter un système où on regarde aux apparences et non au cœur. C'est sûr que nous, on ne peut pas voir le cœur, mais on doit faire attention de ne pas juger selon les apparences. Parce que nous sommes tous à risque de tomber dans l'orgueil, nous devons faire très attention de ne pas laisser un système d'honneur se mettre en place, un système de vedette. Ne pas permettre d'introduire dans l'Église une compétition, même si, à premier abord, ça pourrait sembler être une saine compétition, mais ça crée de la rivalité. Dieu nous appelle plutôt à collaborer, à nous voir comme tous des membres d'un même corps. Que la petite orteille ne pense pas qu'elle est de moins grande valeur que la main ou que l'œil. Et là où beaucoup de gens se sont trompés sur les apparences, c'est à propos de l'identité de Jésus elle-même. Jésus qui est venu comme un simple homme, humble et sans possession, qui finalement est rejeté et menacé d'être mis à mort à plusieurs reprises, qui doit se cacher parfois, et qui finalement, à la fin de son ministère, est rejeté par son propre peuple, condamné comme un vulgaire criminel. Et les gens, regardant cela, plusieurs sont venus à la conclusion que c'était juste un simple penseur qui a été incompris de son époque. Ou un homme qui a fait la promotion du bien et de l'amour, mais que c'était trop pour les gens de l'époque. Mais en réalité, malgré ses apparences, c'est le Dieu créateur qui est venu sur terre. C'est le Dieu tout-puissant qui tient l'univers dans sa main. Il ne s'est pas déguisé. Il a vraiment pris la forme d'un homme pour venir sur terre. Donc, il a vraiment adopté une attitude humble et une nature humble. Mais il demeurait quand même le Dieu tout-puissant. Et cela, il a accepté de le faire pour mourir pour nous, à notre place. C'est en lui que la Bible nous dit de mettre notre confiance. Si vous voulez vous approcher de Dieu, adorer le Créateur, Dieu vous dit, croyez en mon Fils qui a accepté de venir sur terre comme un simple homme. Croyez ce que je dis malgré les apparences. Croyez qu'il est véritablement le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité. Et cela, ça devient finalement le modèle à suivre. C'est pas pour rien que Dieu a fait cela ainsi. Il veut qu'on suive les traces de Jésus. Dans un don de soi, un amour pour les autres, sacrificiel. Et on conclut avec Philippiens 2. Il dit, « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Dans l'humilité, estimez les autres même supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et comment on peut réussir à tout faire cela si en se souvenant de Jésus? Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.